Radio Barque, pour notre troisième partie, comme nous l'annoncions au tout début de l'émission, c'est Jacques Bascou, président de l'agglo du Grand Narbonne, de la communauté d'agglomération plus exactement, qui est notre invité et qui va nous parler particulièrement, sinon exclusivement, d'un grand projet qui est en train de se, qui va être publié, qui va être révélé au public prochainement, au théâtre de Narbonne, à savoir la vision Grand Narbonne 2030. C'est bien ça, Jacques Bascou?
Oui, tout à fait. Je n'ai pas commenté vos différentes rubriques parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, donc, les élus sont perçus uniquement comme des tricheurs.
Et certains donc, élus, Jacques.
Certains Bascou. Élus. Non, moi, simplement, vous dire par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que le personnel politique se ressaisisse. Et notamment, c'est pas, on ne demande pas une démarche individuelle à chacun pour qu'il se ressaisisse. On demande qu'il y ait des décisions collectives qui soient prises. Et si aujourd'hui, on a un peu plus de moralisation, notamment dans le financement des campagnes électorales, dans la transparence des patrimoines, qui permettent justement de voir quel est l'état, finalement, des finances des élus. Je crois qu'on le doit à des lois qui ont été prises collectivement. Et si je vous dis ça, c'est que je crois qu'il faut qu'il y ait des réformes aujourd'hui, des réformes institutionnelles, et que l'on arrête au niveau des politiques, quelque part, d'avoir un double langage. Je ne veux pas faire, si vous voulez, de procès, mais quand vous entendez donc un candidat qui dit « si je suis mis en examen, je vais démissionner », et puis qui continue à être candidat, quand vous voyez quelqu'un qui, je le nomme M. Valls, qui a été qui a participé à des primaires et qui dit qu'il soutiendra le candidat qui a été choisi, quoi qu'on pense du candidat qui a été choisi, et qui revient sur sa parole, sans parler de Marine Le Pen, qui fait des propositions sur on ne financera pas les soins pour les étrangers, et puis qui revient. Aujourd'hui, on a le spectacle des hommes politiques qui, effectivement, renient. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Et ce qui se passe ici en Narbonne, que vous avez soulevé, c'est ce qui se passe au niveau national, une perte de repères, parce qu'on est sur les sondages, on est sur la communication, et on n'est pas sur le fond. Alors, venons au fond, c'est-à-dire le projet. Le projet, je crois qu'on peut, à un certain moment, sur un territoire, en s'appuyant sur, finalement, les potentialités du territoire, les désirs des citoyens, rassembler des gens différents, mais sur le fond. Pas sur des postures politiques, pas en fonction de sondages et pas en fonction, comme vous l'avez dit très justement, donc de postures médiatiques qui font qu'on s'éloigne finalement de ce qui devrait être finalement la mission d'un élu, c'est de faire en sorte que le territoire se développe et qu'on soit en capacité d'amener de l'activité et d'amener de l'emploi.
Comment ça s'élabore un tel projet?
Alors justement, ce projet, si vous voulez, je ne vais pas revenir sur la mission Racine, mais c'est vrai que la mission Racine, ça a été une grande réalisation, mais qui aujourd'hui donc montre ses limites et dans un deuxième temps...
50 ans plus
voilà,
tard.
Et donc c'est 50 ans plus tard, et donc il faut à tout prix être en phase avec les besoins. Et aujourd'hui, le tourisme change. C'est le tourisme d'arrière-saison et d'arrière-pays. C'est ce qu'on essaye de développer. On n'est plus sur la Floride où on fréquentait les stations un mois d'été. Donc ça nécessite une réflexion... À partir d'une expérience, vous parliez de la salle multimodale, je ne vais pas y revenir, je fais une parenthèse, c'est le choix de chaque politique. Mais je crois qu'il faut s'appuyer sur les besoins des Narbonnais et aussi sur la réalité des projets, et pas uniquement être dans la communication. Donc ce projet, il a été élaboré avec le comité de développement, c'est-à-dire c'est des acteurs économiques sur le terrain qui ont une expérience, qui pour la plupart d'ailleurs ont réussi dans leur secteur, et qui se penchent finalement sur les orientations qui ont été définies fini par l'ensemble des élus et qui les jugent. Et donc il y a eu un avis favorable du comité de développement où il y a tous les acteurs économiques majeurs du territoire pour justement tracer une feuille de route pour les 30 ans qui viennent. Donc ça veut dire, si vous voulez, avoir un fil conducteur sur les 30 ans qui viennent, parce que ce qui se passe souvent, lorsqu'une équipe arrive, qui a alternance, elle a tendance à remettre en cause ce qui a été fait avant pour justifier finalement les arguments souvent démagogiques des campagnes électorales. Et donc ce qu'on souhaite, nous, c'est avoir des grandes orientations, de se tenir dans un cadre, et quels que soient, je vous dis là, les aléas des élections, de pouvoir en s'appuyant à la fois sur les élus. Et si vous voulez, c'est ce que j'essaye de faire à l'agglomération. Il vous a pas échappé que j'ai pas de majorité absolue, que j'essaye de travailler avec des gens d'horizons différents pour justement permettre d'avoir une vision non pas sectaire et non pas partisane, donc des enjeux, des futurs enjeux. Donc ça a été donc pendant 3 mois. C'est vrai que ça a été un reproche, le projet, mais on avait beaucoup d'incertitudes, notamment des incertitudes sur les compétences qui nous étaient confiées. C'est le cas du tourisme, c'est également aussi le cas des ports. On parlait de la mission Racine. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de vous dire si l'agglomération va récupérer les ports ou pas, parce qu'au niveau national et au niveau de la préfecture...
Et l'urbanisme, vous échappe pour le moment.
Et l'urbanisme, si vous voulez, il y a des réformes qui sont faites au niveau national et qui sont donc des réformes tout à fait logique, mais qui sont, et on revient aussi à votre petit billet, sur le poids, finalement, des notables locaux qui empêchent ces réformes en voulant garder leur précaré. Et ça, si vous voulez, aujourd'hui, c'est aussi une confusion qui est dans le débat public et qui fait qu'on n'arrive pas à avancer et que notre pays a de grosses difficultés pour se réformer. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un objectif, c'est ce que nous avons fait en 2030, et qu'on se donne les moyens. Donc les moyens, vous parliez aussi des atouts. Mission Racine, à l'époque, c'était le mois d'août. Et ce qui était le pire, c'était donc le climat. Puisque quand vous, je ne sais pas, vous êtes ici, si vous restez au mois d'août, c'est peut-être moins vrai, puisque le climat est changeant, mais il y avait 3 semaines, par exemple, de vent du nord, ça vous dissuadait de revenir sur notre côte.
Et des moustiques.
Mais ça a été le positif. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faut revoir la façon, si vous voulez, d'appréhender le tourisme. Et donc, le vent, qui était un handicap jusqu'à maintenant, je vous rappelle quand même que par rapport à la mission locale, Racine, on a implanté la station de Leucate dans l'endroit où il y avait plus de vent entre la frontière espagnole et la frontière italienne, où même des wagons avaient été renversés, et récemment des caravanes. Donc c'est là aussi la difficulté d'un projet qui est venu, donc qui a été aussi imposé aux populations locales.
Oui, qui était technocratique quand même.
Technocratique quand même. Donc ce que je veux vous dire là, c'est qu'aujourd'hui le vent, qui était un handicap, ça peut devenir un atout. Non seulement, bien sûr, avec la filière glisse qu'on essaye de développer sur le littoral, puisqu'il y a des gens qui viennent depuis des années, donc ici, pratiquer leur sport favori.
Avec déjà un nombre de manifestations.
Mais également aussi le vent, l'éolien en mer, qui va être un gros projet pour la région. Un gros projet qui, avec la centrale nucléaire de Golfech, permettra, c'est aussi ça la transition énergétique, d'avoir une région autonome en termes de production et de consommation d'électricité. Voilà, donc aujourd'hui ce projet, c'est de voir nos potentialités, c'est quitter un peu l'entre-soi pour porter une ambition commune pour ce territoire, et donc pour les entreprises, les associations et surtout les habitants. Je vous disais aussi, on avait tendance jusqu'à maintenant à se replier sur soi-même, je crois que ce projet aussi, il s'ouvre à l'extérieur. Vous le savez, moi j'étais un des premiers à vouloir cette grande région, la région Occitanie, donc avec Toulouse et avec Montpellier. On est au centre aujourd'hui de cette région, donc c'est un atout. C'est l'ouverture donc sur Toulouse qu'on est en train de travailler, donc parce que en termes là aussi de court séjour, en termes de tourisme d'arrière-saison, d'arrière-pays, avec le patrimoine et la gastronomie, on est très bien placé. Donc Toulouse, mais également aussi travailler avec d'autres agglomérations, c'est ce qu'on a fait avec Cœur du Languedoc, avec donc Agde, Béziers, Lézignan et la Domitienne, donc la petite communauté de communes à côté de Narbonne. Donc ce projet, il a été concerté avec des acteurs économiques, il a été préparé avec des allers-retours avec les élus, mais surtout, il a été voté à l'unanimité de tous les groupes qui sont représentés donc à l'agglomération, de tous les groupes, même s'il y a quelquefois des oppositions sur d'autres groupes. Là, ça a eu le mérite de rassembler tout le monde, ce qui prouve que cette méthode est une bonne méthode.
Donc là, c'est le territoire. C'est un mot que vous employez souvent, Jacques Bascou, que vous montez en exergue, en quelque sorte. Le territoire, sous-entendu, les idéologies, on les laisse un petit peu au vestiaire.
Mais je crois que les idéologies, bon, c'est aujourd'hui d'ailleurs ce dont on se rend compte. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet qui est porté par une majorité de citoyens. Aujourd'hui, nos concitoyens votent contre, ils ne votent pas pour. Et d'ailleurs, si vous regardez les élections présidentielles, aujourd'hui, même avant que les élections aient eu lieu, on commence à dire, si on veut éviter un deuxième tour, là, en fonction des sondages, dont il y a des gens qui, de gauche, même qui ont peut-être voté pour Benoît Hamon aux primaires, qui vont voter pour Macron parce qu'ils veulent empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. Donc aujourd'hui, d'une manière générale, on vote contre, on ne vote jamais pour. Et je crois qu'il faut changer la façon de faire de la politique, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut être sur un projet qui rassemble tous les concitoyens, sans sectarisme, sans esprit partisan, parce que quand on est élu, je pense, c'est qu'on veut imaginer quel sera le territoire dans une trentaine d'années, qu'on y vive bien, et surtout qu'on ait de l'activité. Parce que toutes les personnes qui viennent me voir à l'agglomération, bien sûr, ils ont une préoccupation, c'est l'emploi.
Michel, une remarque ?
Oui, mais ce ne sont pas forcément les enjeux idéologiques en fait, qui viennent perturber en fait, ou qui la gestion d'une aglo comme celle que préside Jacques Mascou. Ce sont surtout, en fait, surtout les égoïsmes
locaux. Oui, les égos et les enjeux de pouvoir.
Un exemple, en fait, il a parlé tout à l'heure en fait, de la difficulté qu'il avait eue dans la gestion de du transfert de la compétence au tourisme et notamment des ports de plaisance. Mais en matière de plan local d'urbanisme, je n'en ai pas la foi. Pareil, 20% seulement, il suffit de 20% d'élus, de maires, de conseillers communautaires, pour empêcher le transfert de la compétence PLU faite à l'agglo. Alors qu'on voit bien aujourd'hui qu'on ne peut pas gérer correctement un territoire, notamment dans sa dimension transport et habitat, de manière totalement autonome dans chacune des communes qui entourent la ville de Narbonne. C'était impensable. Conclusion,
maintenant, on est formé par ça. Moi, je suis partisan de l'agglomération, non pas parce que je suis président de l'agglomération, puisque j'avais quand même anticipé, notamment, on parlait tout à l'heure du SCOT, bien avant 2008, on avait essayé d'avoir une réflexion globale sur ce territoire, en termes d'aménagement du territoire. Donc souvent, je comprends que des maires, d'autant plus que, si vous voulez, le mode de scrutin, encore dans une commune, le maire a un rôle, disons, important, mais qu'il est en train de perdre parce qu'il y a de plus en plus de responsabilités, c'est de plus en plus technique. Et ensuite, donc, il y a des problèmes qu'on ne peut résoudre qu'à une échelle plus grande. Donc, je ne suis pas, moi, au niveau de l'agglomération, contre les communes, comme certains ont pu le dire. Au contraire, aujourd'hui, il faut donner des moyens aux communes, et notamment en termes de services, avec de la mutualisation, que ce soit au niveau de l'informatique, du juridique, justement des appels d'offres dans les marchés, également aussi dans le plan local, moi je suis partisan, mais moi je brusque pas les choses. À un certain moment, si on veut pas avoir ce que vous disiez tout à l'heure, des passe-droits, si lorsqu'on fait un PLU, on fait pas rentrer tel terrain dans le PLU ou pas, suivant les affinités, à un moment, donc le PLU, ça doit être dans une logique générale ou dans l'intérêt général pour que on puisse non pas avoir des lotissements qui sont aujourd'hui souvent à la périphérie des communes sans aucune vie, des lotissements dortoirs, mais qu'on ait vraiment une réflexion. L'agglomération a comme compétence la mobilité, les transports. Il est important que chacun, lorsqu'on on habite dans une commune, on puisse avoir les mêmes services que dans la grande ville. Alors c'est vrai qu'il faut respecter la grande ville parce que c'est elle qui pourvoit donc les recettes, c'est une réalité. Et c'est vrai que ça doit être une locomotive, mais on doit travailler avec l'ensemble des communes. Et moi je pense que l'agglomération peut amener des services aux communes, aux habitants, reste que le maire doit animer le lien social pour qu'on vive bien, l'associatif et ce qui est finalement la démocratie de proximité. Comme dans une ville, il doit y avoir dans les quartiers, si on veut qu'il y ait de la vie, une vie démocratique animée par les élus locaux. Alors c'est ma conception.
Vous avez employé vous-même le mot, Jacques Bascou, le mode de scrutin. Est-ce que le mode de scrutin, justement, du président de l'agglo aujourd'hui, ne prête pas à ce genre de situation ambiguë ? Par exemple, on sait que vous avez été élu, c'est la loi au suffrage indirect, en quelque sorte. Si vous étiez élu au suffrage universel, peut-être que vous auriez une légitimité supplémentaire.
Alors, si vous voulez, quand vous dites indirect, non. Puisque, si vous voulez, aux dernières élections, nous avions deux listes. Vous aviez une liste des municipaux et une liste des conseillers communautaires qui ont été élus dans chaque village. Et ensuite, donc, ils se sont retrouvés dans une assemblée et il y a eu un vote et j'ai été élu président. Donc, c'est à partir des
communautaires,
donc qui avaient une légitimité démocratique puisqu'ils ont été élus directement par nos concitoyens. Mais ce que vous êtes en train de dire, vous avez tout à fait raison, mais je le ramène à ce que je vous disais Aujourd'hui, le problème, c'est le flou des compétences. On transfère une compétence, par exemple les droits des sols, et puis finalement, on peut s'en exonérer. On transfère le tourisme, et puis on peut s'en exonérer puisqu'on a des offices touristiques. Il y a des exceptions à chaque fois. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a le flou. Moi, je pense qu'il faut qu'on définisse les compétences. Qui est le mieux placé pour effectivement exercer la compétence, notamment en termes de territoire? Ensuite, ce qui est important, comment on finance ces compétences? Ça, c'est important, parce que là aussi, sur la fiscalité locale, ça fait des années qu'on doit la réformer et qu'on ne fait rien.
Et les financements croisés sont nuisibles.
Donc, les financements pour pouvoir exercer des compétences, et à ce moment-là, on peut effectivement avoir des scrutins directs. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'avoir un scrutin direct au niveau de l'agglomération pour étouffer les communes. Il faut que les communes puissent avoir des compétences, que des gens soient élus pour les exercer, et les agglomérations aussi, mais des compétences différentes qui permettent de traiter des sujets d'envergure qui dépassent la commune.
Un mot, Michel ?
Non, simplement un petit rappel historique. En fait, l'élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires et du président était prévue dans la loi de la réforme territoriale. Et ce sont les mêmes élus qui ont proposé cette loi, qui l'ont détricotée sous la pression et l'influence d'un groupe particulier qui est celui de M. Baillet, des radicaux de gauche, dont l'existence même politique à travers leur mandat dépend en grande partie du Sénat. Et que le Sénat lui-même dépend en grande partie du vote des conseillers municipaux et des conseillers départementaux.
Voilà,
on voit très bien que dans ce genre d'affaires, s'il n'y a pas, si on ne réforme pas de manière volontaire, et j'allais dire presque brutale, en dehors de tout débat parlementaire et de navette, par voie d'ordonnance ou autre, on n'en sortira jamais. Je rappelle simplement qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, qu'en Italie, que dans tous les grands pays européens, ces réformes territoriales ont été faites depuis 20 ans.
Aujourd'hui, qui c'est qui a la légitimité? Est-ce que c'est les députés, les sénateurs? Je suis assez d'accord sur la nécessaire réforme du Sénat. Il faut voir dans quelles conditions. Qui c'est qui décide? En dernier ressort, c'est l'Association des maires de France, l'Association des présidents de conseils généraux.
C'est-à-dire des lobbies.
Des lobbies qui, à un certain moment, vont voir les députés. J'ai été député. Et qui demande aux députés de présenter des amendements. Et comme la plupart du temps, ces députés ont un mandat local, effectivement, ils bloquent le système. C'est pour ça que moi, et je me le suis appliqué à moi-même, donc je suis toujours pour le mandat unique. Et la réforme, comme ça se passe dans tous les pays en Europe. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est ça le blocage. Et c'est aussi le blocage politique. Pourquoi? Parce que si vous voulez, que ce soit à droite ou à gauche, les partis dits de gouvernement, ils sont à la fois influencés par les conseils généraux, puisque ce sont des structures qui tiennent les partis politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et alors, je ne critique pas sur les compétences qui sont exercées et qui sont bien exercées par les conseils généraux, mais à un certain moment, c'est des systèmes politiques qui aujourd'hui sont obsolètes et qui doivent être réformés.
Merci Jacques Bascou. Un tout dernier mot quand même. Alors politique, politicien, vous êtes quand même toujours socialiste que je sache. Vous avez fait allusion tout à l'heure au fait par exemple que vous regrettez que M. Valls ait changé d'avis. Alors l'avenir du PS, comment le voyez-vous dans cette espèce d'écartèlement qui se manifeste aujourd'hui?
Écoutez, l'avenir du PS est assez sombre, d'après moi, dans la mesure où on sait très bien depuis des années qu'il y a deux lignes politiques à l'intérieur du PS, qu'au niveau national, et j'ai été membre du bureau national, ces deux lignes ont toujours cohabité parce qu'on pensait, et en tout cas les responsables pensaient, que la présidentielle, c'était la mère des batailles, il fallait gagner la présidentielle et ensuite les choses, et on n'a pas préparer un programme pour François Hollande. On n'a pas tranché un certain nombre de problèmes de société. On n'a pas tranché les problèmes des retraites, la position du PS sur le nucléaire, sur la décentralisation, on vient d'en parler. Et donc aujourd'hui, on est dans une impasse. Et donc moi, je trouve que nos dirigeants sont au-dessous de tout, je le dis très clairement, dans la mesure où ils ont imposé une primaire au président de la République, où ils n'ont pas, à un certain moment, même s'il y avait des idées qui étaient avancées, qui étaient intéressantes, ils n'ont pas sanctionné les fraudeurs. Aujourd'hui, les gens sont allés dans des primaires, ils se sont engagés à soutenir le candidat, même si je ne partage pas toutes les idées de Benoît Hamon, ils se sont engagés derrière un candidat, c'était la règle du jeu qui a été adoptée à l'unanimité, et aujourd'hui, des gens ne respectent pas la règle du jeu. Donc pour moi, si le PS, et je suis de plus en plus sceptique, n'est pas en capacité, parce que depuis 2002, je vous rappelle, où on était devant le choix entre Chirac et Le Pen, j'étais de l'expérience du nouveau Parti Socialiste, où on voulait des réformes constitutionnelles. On voulait justement remettre, comment dire, avoir un logiciel qui corresponde finalement aux idées qu'on défendait, alors que là, c'est plus finalement, on revient finalement au molétisme, on a des grandes idées, et puis sur le terrain. Voilà, donc aujourd'hui, je vous dis, moi je suis pessimiste, d'autant plus que le spectacle qui est donné dans cette élection présidentielle, mais surtout ce qui va se passer après, comment construire des majorités aujourd'hui, alors que finalement, on n'est uniquement que dans le spectacle médiatique. Il n'y a pas, comment dire, des points de convergence qui pourraient déjà être travaillés pour avoir une majorité qui permette de gouverner la France. Et donc, j'ai bien peur que ce soit au niveau des partis, que la droite, c'est pareil, qu'on arrive à un chaos et donc à des incertitudes, en espérant qu'on n'aura pas le pire, c'est-à-dire l'arrivée de Marine Le Pen.
Merci Jacques Bascou pour cette franchise, en tout cas. Et nos prochains invités, alors la prochaine fois, nous parlerons de vin, puisque nous recevrons la sommelière Jacques Bonnet de vin et de sommellerie, et nous, ça changera un petit peu. Après quoi, nous reviendrons à une ligne un peu plus classique. Nous recevrons, alors j'en cite quelques-uns, Alain Perea, Isabelle Herpe pour parler du logement social de l'agglo, Guillaume Heras pour parler de l'environnement notamment, un élu nouveau Narbonne, Éric Parra. Ça, c'est une première. Et puis après, Marie Batte, Michel Pille, Catherine Bossy sont pressentis comme invités sur la suite de cette émission. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.